France Musique.
Merci beaucoup d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble en effet jusqu'à 9h. C'est l'une des grandes violoncellistes de la nouvelle génération en contrat avec Deutsche Grammophon. Camille Thomas sort un nouveau disque, Voice of Hope, la voix de l'espoir. Alors en a-t-elle de l'espoir pour le monde musical pour ces prochains mois? Camille Thomas, c'est notre invitée à 9h moins le quart. Les conséquences économiques de la crise sanitaire aux États-Unis, le New York Philharmonic a décidé de ne pas reprendre ses concerts avant 2021. C'est au programme de Classique Info avec Sophie Anastasio dans 40 minutes. L'épidémie de coronavirus très loin d'être maîtrisée sur la planète. La pandémie continue notamment de progresser aux États-Unis, dans plusieurs États du Sud où Donald Trump promet d'organiser des meetings de campagne à 5 mois de la présidentielle. C'est l'un des titres qui sera développé dans le journal de 8h30 présenté par Olivier Denré. Et puis le Grand Prix lycéen des compositeurs à 20 ans, et s'il n'a pas pu être remis physiquement cette année à son lauréat Régis Campeau, il s'ouvre désormais aux collégiens, nous dira Suzanne Gervais. Rendez-vous dans 25 minutes.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique, vos paupières encore lourdes. Voici Bach par Glenn Gould. y a ceux qui adorent, certains moins. Glenn Gould qui joue et qui fredonne Jean-Sébastien Bach, le premier mouvement de son concerto italien, enregistrement de 1962. Le pianiste canadien qui a aussi enregistré Beethoven, les cinq concertos, les symphonies aussi, transcrites pour le piano par Liszt, et même la sonate Le Printemps avec Yehudi Menuhin au violon. Glenn Gould joue Ludwig van, c'est le programme du Van Beethoven avec Aurélie Moreau cet après-midi de 5 à 6. Autre rendez-vous important sur France Musique, le retour sur la scène de l'auditorium de la Maison de la Radio de l'Orchestre National de France, sans public, mais en direct avec celui qui a longtemps été leur directeur musical, le maestro italien Daniele Gatti. Après des mois séparés, les musiciens, en tout cas certains, se sont retrouvés pour répéter, moment émouvant auquel Victor Tribolaspiera assistait.
On les reconnaît à peine derrière leur masque. Les musiciens de l'Orchestre National de France retrouvent pour la première fois leurs collègues et leur auditorium après 3 mois de silence. Réaction à chaud de Claire Azera, violoniste, après la première répétition.
Il a fallu se réapproprier un peu l'espace. Le plaisir de retrouver ce bel auditorium. La sonorité aussi, c'est vraiment ce qui m'a frappée, c'est les premières notes de la symphonie de Honegger. C'était vraiment des frissons, en fait, voilà, l'émotion de la musique, ça m'a manqué, mais à ce niveau-là.
Sur scène, une trentaine de musiciens, uniquement les cordes et 3 percussionnistes. Les mesures sanitaires en vigueur ne permettent pas à l'orchestre de se réunir au grand complet. Il a donc fallu adapter le répertoire et la disposition scénique. Les cordes, habituées à être 2 par pupitre, se retrouvent seules face à leur partition. Luc Herry, premier violon de l'Orchestre National de France.
Je vois notamment moi avec ma collègue, en fait, on forme une véritable équipe, un véritable partenariat. Ce n'est pas par hasard si nous jouons justement à 2. Et là, on se retrouve un peu seul face à son pupitre. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi gérer. On a cette espèce de gymnastique à faire. Bon, l'autre problème qui se pose est un problème effectivement de cohésion d'ensemble du groupe. Donc là aussi, il faut ajuster, il faut s'adapter. Ça demande aussi une écoute encore plus aiguë que d'habitude et encore plus particulière.
À la baguette ce soir, et pour la première fois depuis qu'il a quitté son poste de directeur musical du National, le retour de Daniele Gatti. Le chef italien a choisi un répertoire adapté à l'effectif. La 2e symphonie d'Arthur Honegger et Mystère de l'instant d'Henri Dutilleux.
Je suis très heureux, j'ai trouvé mes musiciens dans un esprit une joie de recommencer à jouer ensemble. Et je dois dire honnêtement que la position sur la scène ne porte pas de problème particulier. La salle répond très bien. La disposition, c'est très favorable pour la pièce de Dutilleux. Ils sont tous solistes. Il y a une attention aux détails de chaque pupitre qui porte à la composition de Dutilleux une clarté. Et voilà.
Reprise d'activité pour une partie des musiciens de l'Orchestre National de France, il devrait être au grand complet, accompagné du chœur et de la maîtrise de Radio France le 14 juillet prochain pour le fameux concert de Paris. Reste à savoir où, traditionnellement donnée au pied de la Tour Eiffel, cette grande fête musicale pourrait avoir lieu dans la cour carrée du Louvre ou aux Invalides.
Et je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que ce soir en direct sur France Musique et francemusique.fr, à 20h, vous pourrez écouter ce concert rien que pour vous, auditeurs de France Musique, seul public concert présenté par notre ami Arnaud Merlin avec 2 grandes œuvres du répertoire de l'orchestre au programme. Donc, Mystère de l'instant d'Henri Dutilleux et la 2e symphonie d'Arthur Honegger. Ici, c'est un extrait de Jeanne au bûcher d'Arthur Honegger. Voilà, ici, Jeanne entend des voix, les voix du ciel, extrait de Jeanne Aubuchet de Neguer, l'Orchestre National de France dirigé par Seiji Ozawa, orchestre qui sera ce soir en direct sur France Musique, en direct de l'auditorium de Radio France. 8h10, c'est une aide précieuse pour les formations de chambre en France. Pro Quartet soutient les quatuors à cordes, mais aussi bien d'autres ensembles. Et comme certaines institutions, Pro Quartet, qui est aussi le Centre Européen de Musique de Chambre, propose des concerts en direct. Le prochain, c'est en fin de journée, aujourd'hui à 18h30, sur la page Facebook de Pro Quartet, programme Mozart, avec le quatuor Tchalik. Gabriel, Louise, Sarah, Marc, quatre frères et sœurs qui jouent ensemble depuis tout le temps. Les Tchalik, en voici deux ici. Gabriel au violon et un cinquième larron, Dania, au piano. Il y a quelques années, ils avaient enregistré un disque superbe intitulé « Le violon de Proust » avec au programme cette rare sonate de Reynaldo Hahn. Date de 1927, cette sonate pour violon et piano de Reynaldo Hahn. C'était son deuxième mouvement, Véloce, avec Gabriel Tchalik au violon et Dania Tchalik au piano. France Musique est à vous. C'est tous les samedis de 9h à 11h. Gabriel Olivier Aguillon qui vous laisse les rênes. Vous choisissez les musiques que vous aimez, des disques chéris, parfois introuvables, sauf ici à la maison de la radio, des souvenirs liés à la musique des Madeleines de Proust, puisqu'on écoutait à l'instant Reynaldo Hahn. Eh bien, ce matin, Gabriel Oliveira Guyon est la voix de France Musique qui a choisi une plage musicale et France Musique. Et donc à vous, Gabriel.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour, Jean-Baptiste et bonjour à vous, chers auditeurs. Je vous propose ce matin une chanson qui est à la base une chanson de Kurt Weill, un compositeur allemand du début du XXe siècle. Il a écrit trois chansons que Luciano Berio, un compositeur italien mort en 2003, a réarrangé à sa sauce. Et ce matin, je vous propose le Grand Lustucru, extrait de Marie Galante, que Kurt Weill compose à Paris en 1934 avec Jacques Deval et Roger Fernet. L'histoire, c'est celle de Marie qui chante l'histoire d'un croque-mitaine qui s'empare des enfants qui ne dorment pas et qui vient la chercher à son tour. La version que je vous propose, c'est celle évidemment de Cathy Berberian, une cantatrice américaine d'origine arménienne qui a été l'épouse de Luciano Berio. Tous les deux, ils ont une flamboyance, une théâtralité, plein de vie dans ce qu'ils créent. Et le Grand Lustucru, ça fait partie de ce disque un peu best-seller de la musique contemporaine, un disque sorti au début des années 70, où on trouve également les folk songs de Berio, également Recital High, et puis donc ces trois chansons de Kurt Weill réarrangées par Berio lui-même. Le Grand Lustucru, le voici, interprété par Cathy Berberian, le Juilliard Ensemble, un ensemble que Berio a fondé au début des années 60 aux États-Unis, et évidemment Luciano Berio à la direction. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt sur France Musique.
Quel est donc dedans la plaine, ce grand bruit qui vient jusqu'à nous? On dirait un bruit de chaîne que l'on traîne, que l'on traîne, que l'on traîne sur des cailloux. C'est le grand Lustucru qui passe, c'est le grand Lustucru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. Et donc sur la rivière, ce grand bruit qui vient jusqu'ici, on dirait un bruit de pierre que l'on jette, que l'on jette, que l'on jette dedans un puits. C'est le grand Lustucru qui passe, c'est le grand Lustucru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. L'ange lui sonne sur Valanche, un pigeon tombe du clocher. Quel est donc ce bruit de branche que l'on traîne, que l'on traîne, que l'on traîne sur le plancher? C'est le grand Lustucru qui passe, et c'est moi qu'il vient à chercher. Parce que ce soir je ne dors pas.
Le grand luxe. Le Grand Lustucru de Kurt Weill, orchestré par Luciano Berio, à la tête du Juilliard Ensemble avec la grande Cathy Berberian. Le choix ce matin de Gabrielle Oliver Aguillon. Je sais pas si elle fait écouter ça à ses enfants avant de se coucher le soir. Gabrielle qui sera d'ailleurs à ce micro demain matin de 8h à 9h. Il est 8h20.
Thank you.
le jeu jusqu'au bout de la vie de Franz Schubert, scherzo de sa dernière sonate, la Deutsche 960, achevée 2 mois seulement avant sa mort. C'était le grand et le cher Adam Laloum, le pianiste toulousain qui cet été sera le tout dernier invité du Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron. Ce sera le 21 août. Et puis Adam Laloum, également à l'affiche du Bel Été des Douves, Festival du Loir-et-Cher, qui lui aussi est maintenu. Ce sera le 9 août. Enfin, Adam Laloum fera aussi partie de la belle affiche qu'on vous prépare tout l'été pour un festival France Musique des artistes enregistrés chez eux ou ici à la radio. On en reparle très vite. France Musique 8h24, voici venu le temps de Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Des nouvelles toutes fraîches du Grand Prix lycéen des compositeurs ce matin. Alors il n'a pas pu être remis à son lauréat de l'année, Régis Campo. Confinement oblige, mais il fourmille d'idées, le Grand Prix lycéen des compositeurs. D'idées nouvelles pour l'année prochaine.
Oui, voilà, plus de 20 ans que chaque année, des centaines de lycéens découvrent un peu partout en France les œuvres de compositeurs et compositrices bien vivants et vivantes. Ils les rencontrent, puis ils votent par classe pour leurs favoris. Désormais incontournable, on peut le dire, le Grand Prix lycéen des compositeurs se tourne, figurez-vous, vers les collégiens. Et oui, il n'est jamais trop tôt pour éveiller les oreilles aux musiques contemporaines et expérimentales. Certains plaideraient même, et j'en suis, pour une sensibilisation dès la maternelle. Mais revenons au collège, le projet devrait se concrétiser dès la rentrée de septembre. Pour la petite histoire, c'est que Musique Nouvelle en Liberté, l'association qui pilote le Grand Prix, a été sollicitée non seulement par ses partenaires, dont la SACEM, mais aussi par quelques enseignants. Au jour d'aujourd'hui, une quinzaine de profs de collèges volontaires constituent un groupe de travail qui réfléchit à une déclinaison collégienne du Grand Prix. Il ne s'agit bien sûr pas de calquer le dispositif tel quel, ne serait-ce que parce que les profs de musique en collège n'ont qu'une heure de cours et puis que l'engagement des élèves ne peut pas être le même. L'idée pour commencer serait d'étudier une des œuvres sélectionné dans la liste du Grand Prix lycéen avec les élèves de 3e. Le démarchage des professeurs est en cours et les discussions battent leur plein.
Et Suzanne, les professeurs de musique sont-ils les seuls à participer ?
Alors ils sont majoritaires, c'est plutôt logique, mais la tendance est vraiment à l'ouverture. Depuis quelques années, des professeurs d'autres disciplines sont intéressés et demandent à participer. Voilà 3 ans qu'un professeur d'italien d'un lycée de Marseille a rejoint l'aventure, suivi par une professeure d'art plastique, une autre de français. Cette année, ils étaient 7 ambassadeurs non musiciens et on encourage ce matin ces profs d'autres disciplines à tenter le coup. Ce qui est crucial avec le Grand Prix, c'est que non seulement il ouvre l'oreille et sensibilise aux musiques contemporaines, mais aussi il permet aux adolescents de prendre conscience vraiment que les compositeurs appartiennent à la même société qu'eux. Les élèves apprennent quelque chose de la réalité matérielle, économique du métier de compositeur en 2020, loin du monde de la musique mainstream et des grandes plateformes commerciales. Rendez-vous donc à l'automne pour découvrir les candidats du Grand Prix 2021 et pour la mise en place, si tout va bien, du premier dispositif pour les collégiens.
Et Musique Nouvelle en Liberté, donc le Grand Prix va être intégré à la future maison de la musique contemporaine très attendue par le secteur. Suzanne Gervais, merci. Rendez-vous demain. À demain.
À demain.
Régis Campo, une solitude de l'espace pour cet musicien et qui a donc obtenu le Grand Prix lycéen des compositeurs. Les lycéens ont bon goût. Thank you. Voilà, ça s'appelle Une solitude de l'espace. Début, hein, avec l'ensemble TM+, musique signée Régis Campo, qui a donc remporté le Grand Prix lycéen des compositeurs cette année.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Voice of Hope, la voix de l'espoir, c'est le nouvel album de Camille Thomas. De l'espoir, la jeune violoncelliste en a-t-elle pour la reprise de la vie musicale ces prochains mois? Elle est notre invitée, Camille Thomas, dans un quart d'heure. L'ensemble suisse Telem s'est en quelques années spécialisé dans la musique de Clément Jeannequin. Ils l'ont enregistré sur leur nouveau disque Mutation, mais croisé avec d'autres musiques contemporaines, extraits dans une dizaine de minutes. Et puis, dans quelques instants, au programme de Classique Info, Sophie Anastasio nous parle de l'Orchestre Philharmonique de New York. Il vient de l'annoncer, il ne donnera pas de concert avant l'année prochaine 2021. France Musique, 8h30. Le journal, Olivier Denré, bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. La planète est loin d'en avoir fini avec le coronavirus. En témoigne cette progression toujours très inquiétante de la pandémie en Amérique du Sud et aux États-Unis. Au pays de Donald Trump, le nombre de cas dépasse désormais les 2 millions et plus de 112 000 personnes ont à ce jour perdu la vie. La situation continue d'ailleurs de se dégrader dans plusieurs États du Sud, ceux qui se sont déconfinés trop tôt. Grégory Phillips nous appelle de Washington.
Dans une vingtaine d'États sur 50, le nombre de cas de coronavirus progresse et fortement en Arizona, dans l'Oregon, dans l'Utah, en Caroline du Sud et au Texas. Le Texas, qui a rouvert très tôt, dès le 1er mai, enregistre maintenant entre 1500 et 2000 nouveaux cas par jour. Et le docteur Anthony Fauci, l'épidémiologiste en chef aux États-Unis, dit que son pire cauchemar est peut-être en train de se réaliser. Oh mon Dieu! Mais quand est-ce que ça va se terminer? Commente-t-il sur NBC. C'est très compliqué. On commence simplement à comprendre ce virus. En cause, les manifestations de ces deux dernières semaines après la mort de George Floyd. Même si beaucoup dans les cortèges portaient des masques, les autorités sanitaires pensent qu'elles ont pu favoriser la propagation du virus. Également pointé du doigt, le relâchement d'une partie de la population. Quand un État rouvre, ça ne veut pas dire que tout va bien, commente le même docteur Fauci cette fois sur ABC. Il faut rester prudent et notamment éviter les grands rassemblements. Donald Trump vient pourtant d'annoncer la reprise de ses meetings de campagne. Le premier est prévu le 19 juin à Tulsa, Oklahoma. Puis ensuite, ce sera l'Arizona, la Floride et la Caroline du Nord. Les meetings seront énormes, a prévenu le président. Dans ces quatre États, le virus continue de progresser.
La situation se dégrade également au Mexique, où des centaines de cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Au Panama, le pays bat lui aussi en ce moment des records de contagion. Au Brésil, le coronavirus continue de se répandre. Près de 33 000 personnes ont été contaminées en l'espace d'une journée dans le pays. En Europe, en revanche, la crise sanitaire semble s'estomper, suffisamment en tout cas pour que l'Union envisage de rouvrir ses frontières extérieures au début du mois de juillet. La Commission de Bruxelles doit publier ses propositions pour une levée progressive des restrictions de voyage, la décision finale appartenant évidemment à chacun des États membres. En France, le déconfinement se poursuit avec notamment cette réouverture symbolique de la Tour Eiffel le 25 juin prochain. Quant à l'état d'urgence sanitaire, il sera bien levé dans notre pays le 10 juillet. Reste à traiter la situation économique et sociale et là le gouvernement ne cache pas son pessimisme. Le patron de Bercy, Bruno Le Maire, estime que 800 000 emplois risquent de disparaître dans les prochains mois malgré une facture globale de 134 milliards d'euros pour sauver l'économie. On notera que le chef de l'État prendra la parole dimanche. Emmanuel Macron fera sans doute le point sur le déconfinement tout en évoquant un plan global de relance qui pourrait être lancé donc à l'automne. Il devrait aussi pour la première fois évoquer l'autre actualité du moment, le racisme et les violences policières. Un dossier géré, on le sait pour l'instant, en première ligne par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui reçoit donc aujourd'hui et demain des syndicats de police particulièrement remontés contre les mesures dévoilées en début de semaine par le locataire de la place Beauvau. Des gardiens de la paix aux commissaires, ils évoquent tous un sentiment d'abandon et dénoncent la fébrilité au sommet de l'État. Pour beaucoup, on est arrivé là à un point de rupture. C'est en tout cas le sentiment de patrimoine. Patrice Ribeiro, il dirige le syndicat des officiers Synergie CFE-CGC. Il est interrogé par Emmanuel Leclerc.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a une panique au plus haut niveau de l'État parce que le ministre de l'Intérieur, mais pas seulement lui, vraisemblablement le président de la République, se rendent compte de l'émoi et de l'écœurement qui circulent aujourd'hui dans les rangs de la police nationale, quel que soit le grade, et je pense qu'il est en train de rétro-pédaler. Mais à mon avis, c'est trop tard. Christophe Castaner a, dans la précipitation, fait des annonces qui, au-delà des annonces techniques, qui laissent à penser que les gens qui nous fustigent, qui nous stigmatisent, qui nous conspuent, finalement ont eu raison au plus haut niveau de l'État. Et ça, les policiers ont l'impression, d'une part, d'un aplaventrisme, et d'autre part, d'être lâchés en race campagne. Là, c'est vraiment un sentiment d'écœurement. On n'a pas connu ça depuis des années. Tant que la situation n'est pas clarifiée au plus haut niveau de l'État, il n'est pas question que nos collègues se mettent en danger juridiquement. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie rupture entre le ministre de l'Intérieur et les policiers de terrain.
Une rupture surlignée d'ailleurs par ces manifestations officiellement tolérées par le pouvoir politique ces derniers jours. La justice est d'ailleurs saisie aujourd'hui. Le Conseil d'État doit en effet examiner un recours déposé par plusieurs organisations qui demandent la levée de l'interdiction justement de manifester. Et puis nous l'évoquions hier dans ce journal, des statues déboulonnées au Royaume-Uni parce qu'elles rendaient hommage à des figures du colonialisme et de l'esclavagisme. Bien sachez qu'aux États-Unis, des statues de Christophe Colomb ont été attaquées par des manifestants qu'ils considèrent comme l'un des responsables du massacre des Amérindiens et des indigènes en général. De la pluie sur la façade atlantique, le Finistère et le Morbihan sont d'ailleurs placés en vigilance orange. Le nord-est du pays et les Alpes auront droit à des orages en fin de journée. Le temps sera plus sec sur le centre, l'Occitanie et la Provence. Les températures de 7 à 15 degrés ce matin, de 14 à 23 cet après-midi. Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré qu'on retrouve demain. À 8h30. Et je vous propose d'entrer avec moi dans la farandole de Georges Bizet. de bon matin. Georges Bizet, la farandole finale de l'Arlésienne. L'Orchestre National de Lyon était dirigé par Emmanuel Krivine. Les musiciens lyonnais qui s'engagent, ils jouent cette semaine pour les résidents de plusieurs EHPAD de la ville et encore cet après-midi en ensemble de chambres à la résidence autonomie Jean Jaurès. C'est dans le 7e arrondissement. France Musique, il est quasiment 8h40. Voici Sophie Anastasio.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a une panique.
Sophia Anastasio qui a changé de voix. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
Allez, on reprend notre sérieux. On commence par les salles de spectacle et les orchestres qui font part de leur très grande inquiétude au Royaume-Uni.
Allons-nous laisser mourir la musique classique, interroge le Guardian. Beaucoup de musiciens sont indépendants au Royaume-Uni et donc sans revenus depuis le début de la crise. Financés en très grande partie par leur billetterie, les salles fermées depuis plusieurs mois font également face à une catastrophe imminente, peut-on lire dans l'article, qui déplore l'absence d'aide et le silence du gouvernement. Les chefs Simon Rattle et Mark Elder ont adressé à ce dernier une lettre ouverte. Ils y décrivent une situation désespérée et réclament des réponses quant à une reprise des concerts. Les musiciens sont des humains, écrivent-ils. Ils ont besoin de manger, de payer leurs factures, mais aussi de jouer ensemble.
Aux États-Unis, l'Orchestre Philharmonique de New York annule sa saison d'automne.
Pas de représentation pour l'ensemble avant le 6 janvier 2021. Cela représente une perte de billetterie de 9 millions de dollars qui s'ajoute à la perte de 7 à 10 millions de dollars déjà estimée depuis la fin des concerts en mars.
Et toujours à New York, les musiciens du Metropolitan Opera se sont exprimés sur le mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent.
Dans une déclaration, les musiciens se disent horrifiés par les violences policières et le racisme. Les événements de ces dernières semaines, écrivent-ils, nous ont amenés à réfléchir sur la façon dont le Metropolitan Opera peut opérer de réels changements. Les musiciens ont donc rédigé des recommandations, parmi lesquelles embaucher plus de compositeurs et de chefs noirs, mais aussi dans l'administration.
En France, l'ancien directeur de l'Opéra de Tours sera jugé le 6 juillet pour harcèlement moral.
Jean-Yves Ossons, directeur de l'Opéra de Tours de 1999 à 2016, est poursuivi par trois choristes. Il l'accuse de propos humiliants et vexatoires.
L'Orchestre Philharmonique de Strasbourg va retrouver son public.
Après trois mois sans concert, la formation sera le 30 juin prochain au Palais de la Musique et des Congrès, salle Erasme. Port du masque obligatoire pour le public qui sera placé par ordre d'arrivée.
Et puis le Festival de Saintes propose une nouvelle formule. C'est du 18 au 25 juillet et c'est en plein air, Sophia.
Et oui, pour s'adapter aux mesures sanitaires, 9 concerts seront donnés par les musiciens dans l'abbatiale de Saintes. Et ils seront diffusés sur grand écran dans les jardins de l'abbaye des Dames. Le public pourra également profiter de ces concerts allongés dans un transat avec des casques qui diffusera la musique en son binaural.
Classique Info, Sophie Anastasio a retrouvé aussi sur francemusique.fr dans la rubrique Actualité musicale. Je précise d'ailleurs qu'on sera aussi France Musique à Saintes et que vous, vous serez sur France Musique demain à 8h40. À demain, Sophia.
Tout à fait. À demain.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est un ensemble suisse, l'ensemble Telem. Il vient de publier le 3e et dernier volume consacré au compositeur Clément Jeannequin, avec cette fois un portrait de ce compositeur croisé avec des figures contemporaines actuelles telles que Betsy Joulas ou encore la musique du directeur musical de l'ensemble Jean-Christophe Groff. Alors on comprend le nom de cet album, Mutation, qui offre un voyage, une sorte de parcours de la musique de la Renaissance jusqu'à celle d'aujourd'hui. La plupart des musiciens de l'ensemble Telem font partie de la prestigieuse Schola Cantorum de Bâle. Pour ce disque, ils ont invité les musiciens d'un quatuor de saxophone, Xasax, une rencontre des plus réussies.
Titan, 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 Tit de te tenir.
Clément Jeannequin, le blason du beau tétin, et ensuite bah, ça change avec des variations contemporaines. C'est sur le disque Mutation de l'ensemble Telem, un nouveau disque qui vient de sortir. France Musique 8h47, voici notre invité.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et notre invité ce matin est la violoncelliste Camille Thomas. Bonjour Camille.
Bonjour Jean-Baptiste.
Voice of Hope, ça veut dire voix de l'espoir. C'est votre nouvel album, il vient de sortir chez Deutsche Grammophon. On en parle dans un instant, mais d'abord, bah, à propos d'espoir, vous en avez, vous, pour ces prochains mois, pour la vie musicale et pour vous, artiste?
J'en ai toujours, évidemment. Je pense que la musique est plus forte que tout et qu'on a besoin de se retrouver, on a besoin d'écouter de la musique ensemble. Et que ça va revenir.
Mais vous avez quand même barré beaucoup de concerts prévus pour ces prochains mois. Comment vous allez les passer ces prochains mois, cet été ?
Eh bien, oui, c'est effectivement 6 mois d'arrêt. Alors, les premiers mois, ça a été très difficile. Il a fallu effectivement faire le deuil, les barrer. Et finalement, cet été, je pense que je vais essayer de me reposer un peu parce qu'en fait ça a été un traumatisme cet arrêt. Ouais. Moi je l'ai pas très très bien vécu, mais j'ai aussi envie de retrouver le chemin de la scène et du public, et avec l'ensemble Appassionato et Mathieu Herzog, on va aussi donner quelques concerts au mois d'août. Voilà, on a proposé un programme et qui veut peut nous inviter et voilà, on est sur cette lancée, et donc voilà, on va un petit peu jouer, on a envie d'être généreux et d'amener de la musique, tout simplement.
L'appel est lancé, Camille Thomas, pour tous ceux qui souhaitent vous entendre pour ces prochains mois. Il y a quelques concerts hein, quand même, on en parlera tout à l'heure, je redonnerai les dates. Et puis il y a donc ce disque Voice of Hope, paru chez Deutsche Grammophon. Moi c'est un disque que j'ai entre les mains, le CD, mais il connaît aussi un très grand succès en numérique, numéro 1 des ventes classiques déjà sur Amazon, iTunes, bravo. Le disque physique, pour vous qui avez 32 ans, ça a encore un sens ? Le CD ?
Oui. Et j'ai essayé de le faire le plus beau possible parce que je pense que ça a encore un sens d'avoir un objet un peu comme un livre, comme une partition. Moi, je suis encore assez fétichiste des objets. Et je pense qu'un disque, c'est un peu comme un livre, c'est un tout. Il y a évidemment la musique, il y a ce que le musicien veut raconter. Moi, j'essaye toujours de construire une histoire, de prendre les gens par la main pour les amener ici vers l'espoir à travers des œuvres pour la voix, des œuvres spirituelles et le concerto de Fabrice Never Give Up. Et puis, il y a aussi le travail de l'image autour de la photo qui va représenter en fait la musique. Et j'étais très heureuse de travailler avec une grande photographe française qui s'appelle Sonia Sieff, le calligraphe Nicolas Ouchnir, qui ont fait un travail absolument merveilleux sur la pochette, le livret.
En noir et blanc, on dirait un peu un papillon.
Ou un ange de l'espoir.
Ou un ange de l'espoir. Voice of Hope, c'est le disque. Alors comment on compose, vous venez d'en dire un mot, Camille Thomas, comment on compose un disque comme celui-ci? C'est pour un grand major, Deutsche Grammophon. C'est un disque qui mêle un répertoire exigeant, le concerto de Fasilse, on va en parler dans un instant, et puis quelques tubes aussi, comme Casta Diva de Bellini, dans un arrangement pour violoncelle et orchestre. Un équilibre des découvertes et puis des choses très connues.
Tout à fait. J'ai pris mon temps, en fait, pour construire ce programme. J'ai pris presque 3 ans. J'avais envie que cela mûrisse en moi parce que j'ai voulu enregistrer le concerto de Fasilse après l'avoir créé à Paris en 2016 et après avoir vu l'impact incroyable qu'il avait sur le public, parce que c'est une œuvre qui parle de notre temps. C'est une œuvre classique, mais qui est actuelle et qui parle de ce qu'on a vécu, des attentats terroristes, du Bataclan et d'Istanbul. Et il y a une émotion absolument incroyable qui se dégage à chaque fois que je joue cette œuvre. J'ai vraiment eu cette urgence, en fait, de l'enregistrer maintenant. Et puis, comment l'entourer? Ça a été la grande question pendant plusieurs mois, presque 2 années. J'avais tout de suite pensé au Comme Idraï de Bruch, qui est le chant du Grand Pardon, du Yom Kippour dans la région juive, et puis le Kaddish de Ravel. Et ensuite est venue l'idée de la voix. Parce que déjà j'ai toujours été fascinée par la voix, par le côté organique, naturel et émouvant d'une voix. C'est la base de ma recherche musicale. Et aussi j'ai voulu choisir donc des airs qui soient tout simplement spirituels, en fait, qui élèvent l'âme et qui nous donnent envie, qui nous amènent vers cette part dans nos âmes qui cherchent vers cette part de lumière. Donc voilà, le disque c'est un peu construit comme ça. Il commence par des pages plus sombres, comme la prière des morts du Kaddish, Gluck qui va chercher Orphée aux enfers mais qui ne réussit pas à la récupérer, et la lamentation de Dido, donc qui au moment de mourir demande qu'on se souvienne d'elle. C'est toujours aussi une forme d'espoir, en fait, d'empreinte qu'on laisse à travers la musique. Et puis le concerto de Fasilse qui est comme la pièce centrale. Qui nous amène ensuite vers la lumière, vers les chants que ma mère me chantait, de Dvorak, vers Casta Diva, de Bellini. Il y a des pièces comme ça qui nous élèvent.
Ce concerto, d'ailleurs, que vous jouerez, hein, parce qu'il faut se projeter vers l'avenir et vers les concerts qui auront lieu, que vous jouerez le 4 octobre à Dijon, vous l'avez dit, avec Mathieu Herzog à la tête ici de l'orchestre Dijon-Bourgogne, et puis à Chalon-sur-Saône le 5 décembre. Une toute dernière chose, Camille Thomas, s'écrit sur le disque, une partie des bénéfices de l'album est reversée à l'UNICEF. Pourquoi cette volonté-là?
Mais je pense que les musiciens sont des ambassadeurs de la beauté avant tout, mais qu'ils ont une voix aussi au-delà de la musique. Et moi, j'ai eu très envie qu'au-delà des mots et au-delà des notes, il y ait un engagement réel. Et j'étais extrêmement heureuse de ce partenariat avec l'UNICEF. Une partie des bénéfices de l'album est reversée à l'enfance, et à l'enfance qui va être frappée de plein fouet aussi par les conséquences de la crise. Donc c'est un engagement qui est plus important que jamais et qui est pour moi une grande joie.
Voice of Hope, Camille Thomas, le nouvel album paru chez Deutsche Grammophon. Je vous propose qu'on se quitte avec Dvorak, quand ma vieille mère m'apprenait à chanter. Merci beaucoup, Camille.
Bonne journée.
Thank you.
Dvorak, quand ma vieille mère m'apprenait à chanter, mélodie de Tzigane, Camille Thomas au violoncelle, l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles, dirigé par Mathieu Herzog. C'est la fin de Musique Matin. C'est Alex Billard et Déborah Dagobert qui étaient à la technique, Yacine Bouzard à la réalisation, Marion Guillemet, Taïsia Froidure et Margot Muller à la production. Demain, vous serez en compagnie de Gabrielle Olivier Aguillon. Elle recevra Patrick Canac pour parler des musicales du Luberon. Je vous retrouve pour ma part lundi.
À réécouter sur francemusique.fr.